pendant quelque temps. Et je vais parler seulement ce soir. Donc, il y a une mitzvah de compter l'Omer. Et puisque c'est une mitzvah de compter, la première chose qu'il faut clarifier, c'est à partir de quel point est-ce qu'on compte. Donc, il faut définir l'origine du compte. On ne peut pas parler de compter si on ne dit pas à partir de quel point on compte. Alors, on sait très bien que on commence à compter le 16 Nissan. On commence à compter le soir du deuxième seder pour soir où il y a le deuxième seder, c'est-à-dire le lendemain du premier seder, le lendemain du 15. Et si on cherche dans la Torah comment est définie cette origine, et justement dans la Torah, c'est pas marqué comment compter à partir du 16. Ce serait pourtant la façon la plus simple de dire comment, à partir de quel point on compte. Mais dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. Dans la Torah, c'est marqué Usfartem lachem, vous allez compter pour vous, ça veut dire c'est pas seulement le Beit Din qui compte, c'est chaque personne compte. Mimachorat à Shabbat. À partir du lendemain de Shabbat, vous allez compter. Et, pasuk d'après, on dit, vous allez compter ad à Shabbat à Shvi'it, jusqu'au septième Shabbat. Et vous compterez, Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. Le 50e jour, vous apporterez un korban. C'est ça qui nous est dit sur l'origine et aussi quelque chose sur la fin du compte. C'est très bien. Mais si vous lisez le verset, qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez que vous allez compter à partir du lendemain du Shabbat. C'est-à-dire en français, c'est comme si on disait vous allez compter à partir du dimanche. Mais comme dit Rashi, on m'a pas dit de quel dimanche il s'agit. On n'est pas plus informé. C'est clair? Donc, dit Rashi, on ne peut pas lire, parce que ce n'est pas une information, il ne faut pas lire que Shabbat, le mot Shabbat ici, veut parler du Shabbat de Bereshit. Ça ne veut pas dire Shabbat, au sens habituel du mot Shabbat. Ici, Mimachorat à Shabbat, ça veut dire Mimachorat à Pesach. Le lendemain du Pessah. Le Pessah. Le lendemain de Pessah, c'est quand? C'est pas le lendemain de la fête de Pessah. Il existe une certaine ambiguïté. Nous, on a l'habitude de nommer la fête qui dure 7 jours, 8 jours pour nous en Haute-Laretz, de nommer cette fête Pessah. Mais en réalité, c'est un abus de langage. Cette fête, elle devrait plutôt s'appeler Chag HaMatzot. Parce que ce qui est commun à tous les jours de la fête, c'est qu'on y mange des matzot et pas du chametz. Pessah, le nom de Pessah, il vient du Korban Pessah. Or, le Korban Pessah, on l'apporte dans la nuit du 15, Nissan. OK? Donc, éventuellement, on pourrait considérer que le premier jour de la fête s'appelle Pessah. Mais appeler tous les jours de la fête Pessah, c'est vraiment un abus de langage. Parce que ça n'a plus rien à voir avec Pessah. Ça a à voir avec Ragamatzot. Et par conséquent, quand on dit dans la Torah Mimachorat à Pessah, ça veut dire au lendemain de ce que nous on appelle le premier jour de Pessah. Le lendemain du jour où on apporte le Korban Pessah. On apporte le, où on mange le Korban Pessah. OK? Donc c'est bien le 16. Mais parce que on a dit que le mot Shabbat ici ne veut pas dire Shabbat Bereshit, Shabbat de Bereshit, mais Pessah. Alors dans le verset d'après qui nous dit que vous allez compter jusqu'au Shabbat Ashvi'it. Mais si on a commencé le compte, ça peut être n'importe quel jour, quasiment. Donc ça peut être que le Korban Pessah, on l'a apporté. Nous, par exemple, cette année, Shabbat s'est tombé. Là, du coup, c'est vraiment Shabbat. Cette année. Mais les autres années, ça peut tomber un autre jour de la semaine. Et donc, si maintenant, on va le septième Shabbat, il n'y aura pas eu 50 jours. Il peut y avoir jusqu'à 43 jours, éventuellement. Puisque dans la phrase, on dit, vous allez compter jusqu'au septième Shabbat et vous allez, ça sera compte 50 jours. Ça marche pas. Donc, je suis obligé de changer aussi le mot Shabbat dans le verset d'après. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas Pessah, évidemment. Je vais dire que Shabbat ici, Shabbat Hashmi'it, ça veut dire la septième semaine. Shabbat Hashvi'ah. Vous voyez, donc, parce qu'on a changé le premier mot Shabbat, on a dit que ça voulait dire Pessah. Alors maintenant, la deuxième occurrence de Shabbat dans le verset, c'est le verset d'après en réalité, on est obligé de dire que ça parle de la semaine qui est appelée Shabbata. Shabbat, c'est pas obligatoirement le Shabbat de Bereshit, ça peut être aussi la semaine. OK, c'est comme ça. Et maintenant, comme on a dit, voilà, Torah n'a pas choisi la façon la plus simple de décrire ce premier jour en disant c'est le 16 Nissan. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Quel jour de la semaine ce sera? Pourquoi on a dit que c'était alors ça sera toujours effectivement le lendemain du jour où on apporte le Korban Pessah. Puisque le Korban Pessah, on l'apporte, on le mange le 15. Alors le lendemain du 15, c'est le 16. Ça marche. Donc on n'a pas besoin, on n'avait qu'à dire le lendemain du 15. Si tu ne veux pas dire le 16, dis le lendemain du 15. Mais pourquoi l'appeler Shabbat? En quoi est-ce que Pessah peut être appelé Shabbat? On peut pas utiliser n'importe quel mot quand même. Pourquoi est-ce que c'est adéquat d'appeler Pessah Shabbat? Bon, je crois que j'ai déjà expliqué, je crois que c'est dans le Shiurim, la chose suivante. La différence entre Shabbat et Yom Tov. La différence, c'est quoi? Il y a beaucoup de différences, mais il y a une différence fondamentale qui est la suivante. C'est que à Shavuot, Yom Tov, vous allez à la synagogue et vous rencontrez des gens qui ne sont pas invités, vous voulez les inviter. C'est Yom Tov. Ben, vous pouvez les inviter. Si on n'a pas préparé assez de nourriture, ben, on va les préparer. On peut cuire Shabbat. Yom Tov, pardon. On peut faire la shrita, on peut préparer un repas complet. Il y a des règles à respecter, mais on peut faire à manger. Donc, Yom Tov, ma porte est ouverte. Shabbat, vous ne pouvez pas faire ça. Shabbat, les invités que vous avez sont ceux que vous avez prévu d'inviter. Vous ne pouvez pas à l'improviste, évidemment. Si vous avez, on peut le faire parce qu'on va pouvoir. En général, on n'a pas à cuisiner exactement, etc. Mais si tout à coup il y a 100 personnes, vous ne pouvez pas inviter 100 personnes. Yom Tov, vous pouvez inviter 100 personnes. Shabbat, vous ne pouvez pas. Shabbat, la porte pendant le Shabbat, elle est fermée. Sont à l'intérieur ceux qu'on a prévu d'avoir à l'intérieur. Donc la différence entre Shabbat et Yom Tov, si Yom Tov est ouvert, le sort, porte ouverte, et Shabbat, c'est fermé. Le soir du Korban Pessah, c'est Yom Tov. Donc normalement, vous pouvez inviter les gens. C'est ce que nous disons d'ailleurs. Au début du Seder, nous disons « Kol Ditzrich, tout celui qui en a besoin, y était vif, ça. » Et en principe, on devrait ouvrir la porte, et s'il y a des gens derrière la porte, entrez. Ok, nous on peut faire ça. Mais au temps où on mangeait le Korban Pessah, on ne pouvait pas faire ça. Je vous rappelle le Korban Pessah, il obéit à des règles très strictes. Dans le Korban Pessah, la Torah elle a prescrit les choses de la manière suivante. Elle a dit, vous allez prendre un agneau par maison et vous allez préparer cet agneau et vous allez le manger, griller, etc. Mais c'est un korban. Donc, il faudra le manger entièrement. Il faudra manger la viande entièrement. On ne veut pas qu'il en reste. Le reste, ça s'appelle notar, et ça doit être brûlé, ça nous embête de brûler. On voudrait avoir exactement le nombre de consommateurs de cet agneau. Et donc, la Torah a dit, vous allez former un groupe. Et comme le Korban Pessah qui se mange à la sova, qui se mange quand on est déjà rassasié, donc on va en manger un kezaït. Ça, la mitzvah, c'est de manger un kezaït. La grosseur d'une olive, disons. Alors, disons par exemple que la grosseur, le volume, c'est-à-dire en termes de volume, le volume d'une olive en viande d'agneau grillé, bon, ça pèse 30 grammes de viande, disons. D'accord ? Alors maintenant, vous allez vous compter, vous allez voir le groupe de gens qui sont mis ensemble pour acheter ensemble cet agneau, le griller, le manger ensemble, former un groupe pour le manger, vous allez vous compter. Et si par exemple, vous voyez chez le boucher chez le chochet qu'on peut acheter, on va pouvoir acheter un animal qui va nous laisser 9 kilos de viande, d'accord? Bon, alors, comme un kezaïd c'est 30 grammes, il va falloir être 300. Nous allons fermer un groupe de 300 personnes. Maintenant, le soir où on mange le Korban Pessah, le soir de Leil HaSeder, vous ne pouvez pas inviter des gens. Parce que pour manger le Korban Pessah, il fallait être inscrit en quelque sorte dans le groupe en question. Donc chacun appartient à son groupe et on ne peut pas manger les uns chez les autres le Korban Pessah. Donc, si vous voulez, la porte, de ce point de vue-là, elle est fermée. Le soir du Seder, avec un Korban Pessah, vous ne pouvez pas ouvrir la porte aux gens. Ce que nous disons que tout celui qui veut bien y manger, c'est seulement parce qu'on n'a pas de Korban Pessah. Parce qu'on n'est plus dans une situation où on a un Korban Pessah. Alors, c'est seulement Yom Tov, alors on peut ouvrir la porte à tout le monde. Mais au temps du Korban Pessah, on ne pouvait pas. Et c'est ça, je crois, la raison, en tout cas, une des raisons, la seule que je connaisse vraiment, bon, c'est comme ça que j'ai compris, quoi, que c'était le Pessah, le soir du Pessah, c'est fermé. C'est comme Shabbat. C'est pour ça qu'on peut utiliser le mot Shabbat pour désigner cette soirée-là. Voilà, c'est comme ça. Mais dans la définition du compte, il est dit, vous commencerez à compter Mimachorat à Shabbat, mais aussi Miyom Aviyachem, à partir du jour où vous avez amené le korban qui s'appelle Omer. Alors, il y a un corban qui s'appelle Omer, qui a apporté, lui, justement le 16. Le 16, pardon, au matin, on apporte ce qui s'appelle le corban Omer. Alors, c'est un corban qui n'est pas comme les autres. Dans les corbanotes, il y a en gros deux sortes de corbanotes. Il y a ce qu'on appelle les offrandes, les menachotes, qui sont les corbanotes, un corban végétal. Corban veut dire simplement, c'est un mode d'approche, on veut s'approcher d'Hachem. Alors, c'est végétal, c'est céréal. Et puis, il y a un mode animal où on apporte de la viande. L'agneau, du taureau. Ce jour-là, ça commence le soir d'ailleurs, dans la nuit, on va faire un truc incroyable. On va aller couper du blé, on va aller couper de l'orge. Parce que la première céréale qui est à ce moment-là, qui est mûre à ce moment-là en Eretz Israël, c'est l'orge. Donc on va aller couper l'orge. On fait quelque chose qui est interdit normalement Yom Tov. On n'a pas le droit de moissonner Yom Tov. Mais bon, publiquement, etc., on va couper ça. Et on va prendre, Omer, c'est une mesure de volume comme toujours. On va prendre quelque chose qui représente un certain Omer, une certaine mesure de ces épis d'orge. Et en gros, disons, on va les balancer devant l'autel. On ne les met même pas sur le misbéar. C'est balancé devant l'autel. C'est comme ça l'offrande, c'est un type d'offrande. C'est ça le Corban Omer. Et donc, on nous dit donc, vous allez compter. Et vous l'allez compter à partir du lendemain du Pessah et à partir du jour où vous amenez le Corban Omer. Donc, une double définition. Définie d'une certaine manière comme étant le lendemain d'un jour où il s'est passé quelque chose d'important. Et le jour numéro 1, c'est un jour où il se passe autre chose d'important. Normalement, dans les corbanotes qu'on amène, quand il s'agit d'une offrande végétale, d'une mincha, donc, toutes les menachot dans le Bet HaMikdash étaient toujours matzot. Il n'y avait pas de chametz. Le chametz, c'est les persona non grata dans le Bet HaMikdash. Il y a deux exceptions. Une exception qui est le korban du fameux 50e jour, le korban de Shavuot. C'est un korban qui est constitué de deux pains, shtei alechem, accompagné de kvassim. Il y a aussi des agneaux, de la viande, etc. qu'on amène. Mais l'important dans ce korban, celui qui donne son nom au korban, ce sont les pains. Le korban s'appelle le korban de shtei alechem. On s'attendrait plutôt à mettre l'accent sur les kvassim de viande, etc. Non, mais le korban qui porte le nom Shtei Alechem. C'est une mincha, c'est une exception, c'est un pain qui est chametz. L'autre exception, c'est un korban qui s'appelle le korban toda. Le korban toda, c'est le korban qu'on amène quand on veut exprimer sa reconnaissance. Quelqu'un, il a fait un voyage périlleux en mer, etc., il apporte un korban. Ce korban s'appelle korban toda. Et donc ça c'est de la viande, mais avec cette viande on amène aussi du végétal, et dans le végétal il y a moitié matzot, moitié chametz. Dans les chalot qu'on amène, une partie sont chametz, une partie sont matzot. Donc c'est les deux seuls cas de figure où il y a du chametz. On verra pourquoi. Alors, évidemment que l'orge qu'on a amené et qu'on n'a même pas mouillé, etc. Donc lui, il n'est pas devenu, il est matzot, mais c'est même pas des matzot, c'est la matière brute, quoi, quasiment. Donc on a un départ caractérisé par deux points. Un point qui est Shabbat, le lendemain du Shabbat. Donc, avec ce que je vous ai dit, on pourrait le traduire le lendemain de la fermeture. Alors, fermeture, mais fermeture de quoi? Qu'est-ce qui s'est fermé avec le Corban Pessah? Qu'est-ce qu'on a fermé en amenant le Corban Pessah? Alors, si on va regarder quand les Bnei Israël ont amené le Corban Pessah qu'ils ont mangé sur le pouce quasiment en train de, au moment où ils sont partis, c'est ils avaient reçu l'ordre dans la paracha, quand on leur a donné le nouveau calendrier, Chodesh Elachem, ok, Rosh Chodesh, c'est-à-dire le mois de Nissan sera le premier des mois, et il est dit là-bas, le 10 du mois, vous allez mettre de côté un agneau. Ces fameux agneaux qu'on va ensuite, un agneau par maison, maison au sens étendu, comme je vous ai dit, éventuellement c'est 300 personnes, 300 personnes qui vont consommer cet agneau. Mais maintenant, si on a un agneau plus petit, on a moins, besoin de moins de personnes, bien sûr. Donc, c'est une fermeture. Alors, cet agneau-là, on l'avait attaché au montant du lit. Et il va rester comme ça pendant 4 jours. Puisque le 14, on va faire la shrita, l'après-midi du 14, et la nuit du 15, on va le griller et le manger. Et si les Égyptiens venaient à nous demander, mais qu'est-ce que c'est sur votre affaire, qu'est-ce que vous avez attaché à vos mains, cet agneau attaché, on va leur dire, parce qu'on va sacrifier cet agneau. On va en faire un corban. Pour Hachem. Mais c'est une idole égyptienne. Eh bien, les Égyptiens, ils vont voir que on va manger leur idole, quoi, quelque part. Et ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas s'opposer. Et donc, en fait, ce korban, c'est une manifestation de rupture radicale avec l'idolâtrie. Cet animal qui est objet de idolâtrie, qui est une idole égyptienne, cet animal, nous, on va en faire. On va le manger. On va faire de la viande et on va le manger. Donc la rupture, c'est une rupture avec l'idolâtrie. Donc si vous voulez, la première définition qu'on a de cette origine du conte, Sfirat HaOmer, c'est on parle d'une rupture avec l'idolâtrie. Alors, il s'agit bien d'une rupture, c'est vrai, mais bon, on fait une manifestation de rupture. Mais rompre avec l'idolâtrie, c'est pas si facile que ça. 7 jours après ça, quand les Bnei Israël vont passer la mer, et qu'Hachem va sauver les Bnei Israël et noyer les Égyptiens, le Midrash dit que les Malachim ont crié au scandale. C'est absolument scandaleux. Pourquoi? Parce que Allelu Avdei Avodah Zarah. Les Malachim ne voient pas la différence entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Ça, c'est un peuple idolâtre et ça aussi, c'est un groupe de gens idolâtres. Alors pourquoi les uns, tu les noies et les autres, tu les sauves? Hachem va donner une réponse qui, d'après les réponses qui sont acceptables, celle-là, elle n'est pas vraiment acceptable. En gros, il va dire, mais parce que les Bnei Israël, ils vont accepter la Torah dans le futur, mais en général, c'est pas quelque chose, c'est pas une réponse qu'on peut donner, puisque le jugement, nous, on a un principe qu'on juge quelqu'un, Bachar ou Cham, tel qu'il est maintenant. On ne tient pas compte, en vérité, de son futur, donc on ne tient même pas compte de son passé. On regarde, voilà, je le regarde maintenant à la loupe, et je regarde qu'est-ce qu'il est. Et selon ce qu'il est maintenant, je le juge. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que le problème de l'idolâtrie n'est pas réglé pour autant. Ce problème de l'idolâtrie, il va continuer. On va avoir tout au long de notre histoire des problèmes avec l'idolâtrie. Il va y avoir même une destruction du Beth Amikdash due à l'idolâtrie. C'est présenté comme une des trois fautes qui ont détruit le Beth Amikdash, mais c'est la faute principale. Et nous, en fait, nous, chacun d'entre nous, nous considérons que nous n'en avons toujours pas fini avec l'idolâtrie. Tous les matins, on fait une bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shelo Asani idolâtre. Il n'a pas fait de moi ni un goy, ni un orphée, ni un idolâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne fait pas la bracha chez Asani Yehudi? Baruch atah Hashem chez Asani Yehudi? Non. Baruch atah Hashem chez Lo Asani. Alors, le Nefesh HaChem, il explique que le mot Baruch, il veut dire amplification. Donc, en vérité, cette bracha, il faut l'entendre de la manière suivante. Je demande à Hashem d'amplifier ma non-idolâtrie. Ça veut dire que cette non-idolâtrie, elle n'est jamais terminée. Je n'ai jamais fini d'être vraiment non-idolâtre. D'autres termes, je suis toujours encore un peu idolâtre. Et on va dire la même chose sur l'esclavage, d'ailleurs. Chez le Hassani et Aved. On est toujours un peu esclave encore. Et en vérité, qu'on veut dire par là être esclave et pas esclave d'Hachem. Parce que quand on est esclave de quelque chose d'autre, alors on n'est pas vraiment esclave d'Hachem. Et ça, c'est aussi une lutte permanente. Puisqu'on a instauré une bracha, ça veut dire qu'on n'a jamais terminé cette lutte. On doit continuer en permanence. Donc, il y a bien une manifestation de rupture, et on va commencer à compter à partir de cette rupture. Mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé. On a montré qu'on ne veut plus rien avoir à faire avec l'idolâtrie, mais néanmoins, l'idolâtrie nous colle encore un peu à la peau. En tout cas, on commence à compter, et le compte est un compte de rupture par rapport à l'idolâtrie. Je vais compter les jours qui me sépare de ce moment de la rupture avec l'idolâtrie. Donc, je m'éloigne de plus en plus de l'idolâtrie. Je m'en éloigne. Et je vais m'en éloigner tellement que je vais me retrouver et être capable d'entendre la parole d'Hachem. C'est ça le processus, n'est-ce pas? Je vais m'en éloigner progressivement. Chaque jour, je m'en éloigne de plus en plus. Donc, chaque jour, un peu plus. Chaque jour, c'est une façon de s'éloigner. Mais c'est curieux, parce que dans ce processus d'éloignement de l'idolâtrie, où chaque jour va compter, eh bien, chaque jour, on a une double tâche. Parce que vous vous souvenez que quand Hachem a dit à Abraham Avinu que ses enfants seraient en exil, en esclavage, 400 ans. Marqué 400 ans. En bas, mais Otshana. Mais nous, on est resté en Égypte que 210 ans, dont 86 d'esclavage réel. Et donc, il y a 190 ans qui ont passé à l'asthme. On est sorti prématurément. Alors, le Harizal explique qu'on est sorti prématurément parce que si on avait entendu encore un peu, il n'y avait plus personne pour sortir. Déjà qu'il n'y a qu'un cinquième des gens qui sont sortis, imaginez qu'on attend encore un peu Et ce cinquième-là, il ne sort pas non plus. Ça veut dire la prégnance idolâtre en Égypte était tellement forte que c'était presque impossible de. Les Bnei Israël sont quasiment tous tombés dans l'idolâtrie pendant ce temps-là. Il dit que le Rambam, il écrit qu'on a, pendant ce temps-là, on a quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Pratiquement tout. Donc tout le travail d'Abraham Avinu, qui était un arrachement de l'idolâtrie, d'accord, puisque c'est bien ce qu'on dit, Mitrila, on a dit le soir du Seder, Mitrila, Ovde Avodazara, Ayu Avotenu, Terar, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils se sont, initialement, Avraham, il était idolâtre. Il a été élevé dans une maison idolâtre. Il s'est arraché. Mais on a oublié cet enseignement. Et donc, on est retombé dans l'idolâtrie égyptienne cette fois-ci, qui était l'idolâtrie probablement la plus sophistiquée qui soit à l'époque. Il faut sortir de l'idée que les idolâtres sont des crétins. Hein. C'est pas des crétins, c'est des gens qui ont beaucoup réfléchi et qui ont trouvé un mode de vie qui ne convient pas du tout à Kadosh Baruch Hu, mais qui était construit avec, c'était avec des arguments, avec des théories, etc., qui sont fausses, mais c'est toutes sortes de constructions qui sont imposantes, si vous voulez. Certains disent qu'en réalité, toute la philosophie grecque, toute la culture grecque, en fait, elle a largement puisé dans l'égyptienne, la culture égyptienne. Et donc, les Bnei Israël qui étaient là-bas, ils étaient idolâtres. Et puis, donc, ils ont dégringolé. Et les Arizal disent, ils ont dégringolé jusqu'à ce qu'ils se trouvent au 49e degré d'impureté. Peu importe ce que ça veut dire, en tout cas, ils étaient à la veille d'atteindre un niveau d'impureté qui était une mort totale, quoi. Le summum de l'impureté, c'est la mort, hein, n'est-ce pas? Le avi avotatouma, c'est le mort. Donc, quand on dit on atteint le summum de l'impureté, c'est la mort. Et donc, c'est pour ça, dit Arizal, qu'on est sorti prématurément. Parce que sinon, il n'y a plus personne pour sortir. Moshe Rabbeinu a négocié avec Hachem. Moshe Rabbeinu voulait qu'Hachem nous donne de l'énergie pour supporter les 190 ans d'exil et d'esclavage qu'il fallait encore endurer pour arriver à ce compte de 400 ans. Moshe Rabbeinu le voulait, Hachem n'était pas d'accord, et c'est Hachem qui a gagné. Et ça se manifeste. Parce que quand Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, mais ils vont me demander au nom de qui tu viens nous raconter qu'on va sortir d'Égypte, etc. Quel est ton nom? Quel nom? Hachem a dit, en passant, le Midrash dit, Hachem a dit, je sais très bien que c'est toi qui veux connaître mon nom, en vérité. D'accord? Ça veut dire que tu racontes que c'est les enfants, ils vont te poser des questions, mais je sais très bien que c'est toi qui veux connaître. Mais alors, il a dit, mon nom c'est Eke Asher Eke. Je serai qui je serai. Et Drasha, je serai avec eux dans les exils à venir, comme je suis avec eux dans cet exil-là. Super comme proposition. Moshe Rabbeinu a dit, mais ça, je peux pas vendre. Je suis un excellent vendeur, mais ça, je peux pas vendre une chose pareille. Qu'est-ce que je vais aller dire au ministre? Écoutez, on va sortir de cet exil. Alors, mais n'ayez crainte, il y aura d'autres exils, d'autres esclavages. N'ayez crainte. On n'est pas en train de vous priver d'exil et d'esclavage. Les aurez. Alors, ça, moi, je suis revenu lui dire, mais non. Ça... Mais lui, il ne voulait pas qu'il y ait ça. Il ne voulait pas qu'on ait d'autres exils pour compléter l'exil qu'on n'a pas, les 400 ans qu'on n'a pas vécu en exil. Hachem ne lui a pas donné. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les fameux quatre exils qui suivent. Vous avez remarqué déjà que l'exil égyptien, il n'est pas dans les quatre exils en question. Parce que l'exil égyptien, c'est la mère des exils. Les quatre exils, ils viennent compléter ce qu'on n'a pas eu en Égypte. Bon, alors, c'était agréablement insupportable. Parce que si on veut se faire une petite idée de ce qu'était l'esclavage égyptien, ce qu'il aurait été, là, pendant les 190 ans, imaginez que toute l'histoire de la souffrance juive s'en réduite quasiment d'un facteur 10, disons. Pour passer de 1900, 2000 ans à 190 ans. Imaginez compresser tout ça et toute la souffrance juive sur 190 ans. Voilà. C'est juste pour avoir une petite idée de ce que ça représentait, l'exil égyptien. Pardon?
Pourriez-vous nous rappeler les quatre exils, s'il vous plaît?
Oui, il y a un exil qui est Babel. Ensuite, on était chez les Mèdes et les Perses. Ensuite, l'exil de Yavan. Et ensuite, l'exil d'Édom, qui est le nôtre aujourd'hui, celui dans lequel nous sommes. Donc, on compte à partir de cette rupture. Alors, chaque jour, comme je vous disais, il y a un travail énorme à faire parce que comme on était à moins 49 et qu'on doit arriver à plus 49, chaque jour, il faut faire deux choses. Il faut éliminer le négatif et fabriquer du positif en même temps, chaque jour. Remonter d'un cran de moins de 49 jusqu'à 0, et en même temps, monter de 0, enfin de 1 à 49. Donc chaque jour, on fait deux travaux bien différents. Un travail pour lutter contre la touma, contre la mort, si vous voulez, et un travail pour fabriquer de la vie. On peut le dire en sur merav asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et tout ça. Donc, chaque jour, il y a ces deux travaux à faire ensemble. S'éloigner de la mort et construire la vie. La deuxième définition, c'est le jour numéro 1, c'est le jour où on apporte ce fameux Corban Omer. C'est-à-dire ces épis-là qu'on va balancer devant l'autel. Alors, vous remarquez que ces épis, c'est de l'orge. Dans la Torah, l'orge, c'est toujours la nourriture animale. Par opposition au blé, qui est la nourriture humaine. Donc, on commence à compter à partir d'une situation où ce qu'on a devant nous, ce avec quoi on va travailler, initialement, c'est la nourriture animale. Donc, si on parle de nourriture animale, ça veut dire que quelque part, nous, on n'est pas capable d'approcher autre chose. Que la nourriture animale, c'est quelque part, c'est presque l'animalité de l'homme quoi, qui est là. Et puis on va aller jusqu'au bout du processus. Et au bout du processus, on a une nourriture qui est humaine. C'est une nourriture dans laquelle il y a du pain. Le pain, c'est la résultante d'un travail. Il va falloir le fabriquer, le pain. Donc on était parti d'une situation où on avait quasiment de la matière brute. L'animal, il mange la matière brute. Nourriture animale, telle que le... Et puis, il faut... Donc, il y a une humanisation, si on peut parler comme ça, et en même temps une sortie de l'animalité qui se fait durant tout ce processus qui va nous amener à la Kabbalat HaTorah. Donc, aucun travail, nature brute, si vous voulez. Et ensuite, travail très sophistiqué, fabriquer du pain. Orge, animal, blé. Évidemment, il n'y avait pas de chametz, puisqu'on n'a pas du tout travaillé. Et puis ensuite, jusqu'à incorporer, mettre sur le misbéar, cette fois-ci, du chametz. Pourquoi est-ce qu'à Shavuot, on a le droit d'amener un corban qui est en chametz? Le chametz, ça représente le Yetzerara. Ça représente la Midat Hadin, ça représente le Yetzerara. Le Yetzerara, le Ra, c'est quelque chose qui a été fabriqué, conçu, inventé par Hachem. Mais Hachem a dit, c'est Ra, mais je te donne une épice, la seule épice qui puisse le faire, qui va rendre le Yetzerara comestible. Il ne s'agit pas d'éradiquer le Yetzerara. On ne peut pas vivre dans notre monde sans le Yetzerara. Simplement, il faut le canaliser, il faut le travailler, il faut le rendre comestible, si vous voulez, comme une épice qui rend comestible, qui rend mangeable vraiment quelque chose. L'épice, elle va travailler la nourriture, etc. Elle va lui donner du goût, etc. Éventuellement la transformer, ça va la cuire d'une certaine manière avec ces épices. Alors, je vous dis, je vous ai donné le mal, mais je vous ai donné de quoi vous débrouiller face au mal. Vous n'êtes pas pieds et poings liés, livrés au mal auquel vous ne pouvez pas du tout faire face. Vous pouvez. Mais n'imaginez pas que vous pouvez autrement que comme le fabricant de Yetzerara vous l'a dit, le seul moyen de traiter ce Yetzerara, c'est la Torah. Alors, qu'on ne puisse pas éradiquer complètement le mal, la Torah, la Gemara, elle rapporte, après la destruction du premier Beth Amikdash, je vous ai dit, le Beth Amikdash, il a été détruit en réalité à cause de l'idolâtrie. Aussi à côté des autres Averot, mais l'essentiel, c'est l'idolâtrie. Les Bnei Israël, ils ont fait un constat, ils ont dit finalement, on n'y arrive pas à régler ce problème de l'idolâtrie. D'accord, on a empêché les Cananéens idolâtres de rester dans le pays, on les a chassés, on les a massacrés, tout ce qu'on veut, pour essayer d'arriver à ne pas tomber dans l'idolâtrie, avec tout ça, ça n'a pas marché. Je crois que ça a détruit la résidence d'Hachem. Ça veut dire quelque part, on n'a plus tellement de raison d'être, quoi. Alors, ils ont prié, ils ont demandé qu'Hachem enlève le Yetzerara de l'idolâtrie. En vérité, ils n'ont pas demandé qu'il l'enlève. Ils ont demandé qu'il enlève sa virulence. Le côté must. Vous connaissez l'histoire de Menaché, etc., qui a dit expliquer à Ravashi, qui lui a dit que si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir encore plus vite vers le temple idolâtre. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était tellement prenant, tellement engageant, tellement must. Le must, ça veut dire quoi? On ne peut pas faire autrement que de faire ça. Alors ça n'existe plus. L'idolâtrie existe encore, mais elle n'a plus cette virulence-là. Et quand les Chachamim ont vu que Akadosh Baruch Hu avait cédé sur ce plan-là, enfin qu'il avait accepté, ils ont dit on pourrait peut-être demander qu'Hachem enlève la virulence de tous les Yetzerara, éradiquer les Yetzerara même. Je m'ai dit, ok, le lendemain, il n'y avait plus une poule qui pondait un œuf. C'est-à-dire le moteur du monde, c'est les Yetzerara. Il y a un moteur dans les Yetzerara. Et on ne peut pas, donc, si on éradique ces Yetzerara, rien ne fonctionne plus. Donc, à Shavuot, on montre que la Torah, avec la Torah dans son état de perfection, la Torah telle qu'on l'a reçue au Sinaï, à ce moment-là, on peut apporter un korban qui est un korban de Hametz. Pour bien montrer que la Torah, elle permet de mettre du Hametz, etc., sur le Mizbeach, ça veut dire qu'on l'a suffisamment travailler pour le récupérer et le mettre au service d'Hachem. Mettre sur le misbéach, ça veut dire mettre au service d'Hachem. Donc ça, c'est le processus, si vous voulez. Un processus dont chaque jour a son importance, avec une double tâche pour chaque jour, s'éloigner de la mort et se fabriquer de la vie, quoi, quelque part. Pour arriver à quoi? Alors, nous, on compte, et on sait que le 50e jour, c'est Shavuot avec Korban, etc. Mais le compte au moment de la sortie d'Égypte, c'est quoi? Ils vont compter. Mais ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a au bout de ces 50 jours-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'en savent rien. Ils ne savent pas. Et cette idée qu'on ne sait pas où on va. Mais on y va sûrement parce qu'on va avec Hachem. Hachem dit, c'est le Navi Yirmiya qui s'exprime et qui dit, je me souviens de ta jeunesse. Hachem dit au Klal Israël, je me souviens de la jeunesse. L'Echtech Acharei Bamidbar, tu m'as suivi dans le désert. Cette générosité dont tu as fait preuve, cette confiance que tu m'as donnée, tu m'as suivi. Tu ne savais pas où on allait. Personne ne savait ce que voulait dire sortir d'Égypte. Je voulais expliquer que c'est pour moi, c'est la matzah. Bon, je ne veux pas le réexpliquer, non, j'ai expliqué avant Pessah. Avraham Avinu, quand Hachem lui a dit Lech Lecha, il ne lui a pas dit du tout où il allait, il lui a dit Elle arrête, Sachel Areka, vers le pays que je te montrerai. Quand il lui a dit d'aller sacrifier Yitzhak, il ne lui a pas dit où. Il a dit, ce sera dans Moria, mais il y avait plein de montagnes. D'un coup, il a vu un petit nuage, ah, c'est celui-là. Je ne sais pas. Les Bnei Israël, quand ils sortent de Mitzrayim, ils ne savent pas où ils vont. Les Bnei Israël, quand ils entrent dans la mer, ils ne savent pas comment ils vont en sortir. Les Bnei Israël, quand ils comptent, bon, dans la mer, c'est le 7e jour, on est déjà dans le processus. Le compte de 50, on ne sait pas où on va. Pourquoi c'est toujours on ne sait pas où on va? Parce qu'en réalité, le point de départ, on le connaît, il est dans ce monde-ci. Le point d'arrivée, il est dans un autre monde. D'accord? Quand les Bnei Israël sortent de Mitzrayim, ils ne sortent pas de façon normale. Quand ils passent la mer, d'accord, ils entrent dans un monde complètement différent. Quand on reçoit la Torah, on entre dans un nouveau monde, on est plus soumis aux règles qui fonctionnent dans le monde normalement. Nous, on est très éloigné de la Torah, mais quand on est imbibé de Torah, les choses fonctionnent complètement différentes, c'est un autre monde. Et bien sûr que Olam Haba, on ne sait pas du tout ce que c'est. On y va certainement, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. On n'a aucune idée de ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est en fait l'idée que c'est une sortie du monde. Les Bnei Israël sont des gens qui en fait sont une fois pour toutes sortis du monde et qui n'arrêtent pas de sortir du monde. Ils vivent dans un autre monde. Et tous les éléments constitutifs de l'histoire constitutifs du clan Israël, c'est toujours cette appartenance en réalité à un autre monde. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ne sont pas classables. Le peuple juif est inclassable. Le monde entier aujourd'hui expérimente un peu cette situation du « on ne sait pas où on va, on ne comprend pas, c'est un autre monde ». On a passé par le confinement, il y avait des pays entiers qui étaient complètement fermés. Nouvelle-Zélande, Australie, fermés, complètement fermés. La moitié de l'humanité confinée. On ne sait même pas ce qu'on dit quand on dit ça. Maintenant, il y a une guerre totalement improbable, avec éventuellement il faut envisager que un cinglé va utiliser l'arme atomique. Il a des missiles qui peuvent détruire les grandes villes de la côte est des États-Unis. Semble-t-il, on n'a pas encore des contre-missiles contre ces choses-là. Je ne suis pas au courant du détail de ce que les Américains ou les autres ont. Est-ce que Poutine bluffe, etc. C'est un truc impensable. Il y a des choses qui sont absolument incompréhensibles, mais on a expérimenté cette situation-là. Les frères de Yosef, tout ce qui leur arrive, après, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Toute l'histoire avec Shimon, avec Benjamin, vers décembre, tout le monde, c'est invasible, le fait qu'il les installe tous dans l'ordre de naissance, etc. Ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Et en vérité, toute cette situation totalement incompréhensible, elle va prendre son sens avec deux mots. Yosef va dire deux mots et tout ça va s'éclairer complètement. Yosef va dire « Ani Yosef ». Le vice-roi d'Égypte dit « Je suis Yosef ». Ils n'ont plus de questions. Hein. Donc, ils comprennent. Alors, si c'est Yosef, alors on comprend tout. Avec deux mots, tout s'est complètement éclairé. C'est-à-dire que la situation est incompréhensible parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous donne les deux mots. En fait. J'ai entendu dire que Rav Moshe Shapira, l'Ironie de Bracha, il avait l'habitude de passer Pessah à Moscou. Et toutes les années, il leur faisait la même dracha quasiment. Justement, il racontait cette histoire de Yosef, etc. Et puis, il a dit, est-ce que quelqu'un peut répondre à cela? Si je vous disais, il n'est pas en train de nous dire ce qui va se passer, mais pour essayer de comprendre ce que c'est que les fameux deux mots de Yosef. Et si cette façon qu'a Poutine de se comporter de façon totalement incompréhensible. Et si Poutine disait « Ani Yosef », du coup, on comprendrait que, voilà, y a un autre projet. Effectivement, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous réfléchissez avec la réflexion de ce monde-ci. Mais en fait, quand Yosef parle, il n'était pas en train de dire que Poutine allait... Il voulait seulement donner un exemple. Parce que les choses prendraient un autre sens complètement. Ça deviendrait compréhensible. Ça s'inscrit dans un autre plan. Donc toute cette histoire de « on va vers l'inconnu ». Pourquoi ? Parce que ce vers quoi on va, ça n'appartient pas à notre monde, donc on ne peut pas le définir. Alors ça se réalise dans ce monde. Quand il s'agit de « Alares Asher Arka, Eretz Israël » ou « le Mont Moria » ou « la sortie d'Égypte » ou « le passage de la mer », etc. Et Kabbalah ta Torah, c'est quoi? C'est de la folie. On reviendra sur cette histoire de Kabbalah ta Torah. Je voudrais maintenant mentionner deux choses. Durant cette période, il y a eu Kriyat Yamsouf, au jour numéro 7, septième jour de Pessah, dernier jour, il y a eu Kriyat Yamsouf. Bon, alors laissons de côté Kriyat Yamsouf, on a déjà parlé. Il y a deux autres grands événements durant cette période. Il y a la guerre contre Amalek, d'une part, et il y a Mara, d'autre part. Mara, c'est ce fameux épisode où les Bnei Israël n'ont pas d'eau pour eux, il y en a pour les troupeaux, mais il n'y en a pas pour eux. Et bon, alors tout de suite, il y a des murmures contre Moshe Rabbeinu, au point que Moshe Rabbeinu demande à Hachem, est-ce que vraiment ils vont me tuer ou quoi? Bon, on ne va pas entrer dans le fameux Midrash, qu'est-ce qu'Hachem lui a répondu et tout. Mais bon, ça devient gravissime. Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'Hachem de prendre un certain bois, etc., et d'adoucir l'eau. Ok, ça c'est ce problème, mais c'est pas ça Mara, l'essentiel. Mara. C'est qu'à Mara, les Bnei Israël ont reçu 10 mitzvot. Ils ont reçu les mitzvot. On avait bien reçu une mitzvah. Et c'est un peu spécial, c'est pas une mitzvah pour tout le monde. C'est une mitzvah pour le Beddin, la Chodesh Hazelachem. C'est le Beddin qui va décider quand le nouveau mois va commencer. Bon, alors, les gens vont aller témoigner, mais la décision est au Beddin. Mais ils vont recevoir, dans les dix mitzvot que les Bnei Israël reçoivent à Mara, il y a Shabbat, il y a Kibbud Av Va'em, il y a Para Aduma, par exemple. Il y a Shabbat qui est la montagne qu'on sait, Kibbud Av Va'em, c'est toute la structure familiale en réalité. Et puis il y a la Para Aduma, c'est-à-dire le processus qui nous permet de sortir de l'impureté maximale, celle du contact avec un mort. Donc c'est énorme ces mitzvot qu'on a reçus. Mais d'avoir reçu les mitzvot, alors bien sûr il y a reçu les mitzvot, mais ça change complètement le regard qu'on peut porter sur Matan Torah, sur Shavuot, sur Matan Torah. Si on dit que Matan Torah, c'est le fait d'avoir reçu les mitzvot, ben c'est rien de spécial. On a déjà reçu les mitzvot à Mara. OK, là-bas, il y en avait 10, maintenant, il y en a en tout 613. Mais c'est jamais... Il n'y a rien de nouveau. D'avoir reçu une mitzvah, les mitzvot, c'est fondamental, comme chacun sait. Et une mitzvah, c'est toujours quelque chose. C'est pas on a reçu des ordres. C'est reçu. Le mitzvah, je vous ai fait remarquer souvent que le mot mitzvah, la graphie du mot mitzvah. Elle permet de lire metsuveh, mais aussi d'abord metsuveh, c'est Hachem qui donne l'ordre. Le metsuveh, c'est nous qui recevons, c'est Israël qui reçoit les ordres. La mitzvah elle-même, c'est l'ordre lui-même. Donc, quand on a une mitzvah, il faut jamais oublier, d'accord, que cette mitzvah, c'est quelque chose qui va du metsuveh vers le metsuveh, pas simplement un ordre. Donc, il se trouve que ça vient d'Hachem. Pas du tout. La mitzvah n'a pas de sens si on ne l'entend pas comme un lien entre Hachem et l'homme. Et ensuite, les hommes doivent faire la mitzvah, appliquer. Et donc, ça boucle la boucle. Et ça fait une boucle dans laquelle nous sommes associés à Hachem. Hachem nous a donné des ordres et nous, on fabrique, on fait ce qu'il nous a donné. Ça fait la boucle complète. Et donc, si Matan Torah, ce n'est pas caractérisé par le fait de recevoir des mitzvot. On pourrait dire, bon, alors, c'est qu'on est metsuvé. On est ordonné, en quelque sorte. Bon, mais on a déjà été ordonné par les mitzvot de Marat. Mais le chidouche, c'est que Hachem nous a parlé. Hachem a parlé aux hommes. Il y a des dibourim, il y a 10 paroles qui sont dites par Hachem. Jusque-là, dans l'histoire, si vous voulez, la parole d'Hachem, elle n'est jamais adressée à quelqu'un. Avant les Aseret HaDibrot, il y a les Asara Ma'amarot. Les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Mais c'est pas qu'Hachem discute avec quelqu'un et qu'il lui dit des choses. Il a donné des ordres. La parole d'Hachem, c'est elle qui vivifie en permanence tout ce qui a été créé. Pourquoi il y a de la vie dans ce qui a été créé? Parce que c'est la parole d'Hachem qui a dans cette vie, ce qui a été créé là. Mais du coup, pour entendre la parole, il va falloir travailler cette matière, ce monde. Et la Torah va nous permettre de travailler le monde jusqu'à transformer les ma'amarot d'Hachem en des dibrot. Du coup, on va être capable de faire, de devenir un interlocuteur pour Hachem. Hachem nous a sortis d'Égypte. Et on a gravi ces 49 marches, hein, si vous voulez, jusqu'à devenir un interlocuteur valable pour Hachem. Valable. Hachem a décidé qu'on était un interlocuteur valable, qu'il allait nous parler. Et la parole d'Hachem, c'est énorme, extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a présence d'Hachem. Comment il nous parle? Voilà, il nous parle. Qu'est-ce qui se passe quand Hachem nous parle? Hachem nous parle, on en meurt. Bon, les Bnei Israël qui ont entendu la parole d'Hachem, ils sont morts. Ils ont été projetés en arrière, ils sont morts, ils ont ressuscité, mais dans cette résurrection, ils ressuscitent, mais la parole d'Hachem est devenue une partie d'eux-mêmes. Elle s'est fichée en quelque sorte dans leur cœur. Première parole. Deuxième parole, projetée en arrière, il meurt, il ressuscite, et le Lo Yielcha à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est à l'intérieur? Ça veut dire que ces paroles-là, c'est la parole d'Hachem, et du coup, ça me vivifie à un certain niveau. Et ça me permet de devenir, et c'est presque un robot, vous savez, maintenant, je ne peux plus transgresser la parole d'Hachem. C'est devenu une partie, Hachem est en moi, il prend les décisions avec moi, j'ai fait entrer Hachem en moi. si les Bnei Israël avaient entendu les 10 paroles directement d'Hachem, l'histoire était terminée. Parce que voilà, les 10 paroles, c'est toute la Torah. Donc l'histoire était terminée, finie. Non mais tout était réglé. Mais les Bnei Israël, au bout du deuxième, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on est mort deux fois, d'accord, on est deux fois ressuscité, mais ok, deux fois c'est bon, mais la troisième, on n'est pas sûr qu'on va ressusciter de nouveau. Donc d'abord à Taïman, ils vont demander à Moshe de leur parler. Et du coup, ils ne vont plus entendre la parole d'Hachem directement. Ils vont entendre la parole qu'Hachem a adressée à Moshe Rabbeinu, et c'est cette parole que Moshe Rabbeinu leur répercute. Ça n'a pas le même effet. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas le même effet du tout. Donc ça continue, les choses. Et parce que les choses qui s'étaient fichées, c'était là pour... Si on avait entendu les 10, comme on n'a pas entendu les 10, c'est sorti, quoi, quelque part. Parce que sinon, on n'aurait pas... Sinon, on ne peut pas comprendre comment ça peut donner le veau d'or. L'oyelecha. Comme on n'a pas entendu le tout, alors cette histoire que ça se fiche en nous, c'est pas définitif. C'est raté, quoi, ce point de vue-là. Ça, c'est Mara. Mara, qui fait que le peuple, on est devenu des gens qui sont, auxquels Hachem a donné des ordres. Et il leur a donné des mitzvot, c'est-à-dire il les a pris pour des metsuvim. C'est-à-dire, il engage une relation avec eux. Quand Hachem a dit qu'il fallait construire il voulait qu'on construise un Mishkan, il a dit Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham. Ils vont me faire un sanctuaire et ainsi je résiderai parmi eux. Et vous connaissez la dracha, parmi eux, c'est-à-dire Belev Kolechad Bechad. Hachem dit je veux résider dans le cœur de chacun. Ça veut dire, quelque part, ce qui s'est passé au Sinaï, ben, ça va pouvoir se faire grâce au Mishkan. Le Mishkan, pour le Ramban, par exemple, le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. Bon, ça veut dire, le Sinaï, ça voulait dire une relation s'établit entre HaKadosh Baruch Hu et le clan Israël. Donc, une espèce de présence d'Hachem, présence de la parole d'Hachem dans le monde. Ben, si on a un Mishkan, il y a une présence d'Hachem dans le monde, puisque Moshe Rabbeinu va entrer, il va entendre la parole d'Hachem dans le Mishkan, et voilà, il va nous la répercuter. Donc, on a obtenu cette présence d'Hachem dans le monde, et le Ramban veut dire, c'est pas quelque chose qui a eu lieu une fois, c'est quelque chose qui va se... qui va se perpétuer par le Mishkan, le Beth Amikdash, etc. Donc, pour l'histoire, quelque part. Ça, c'est la parole d'Hachem. Tout ça, c'est Mara. Entre-temps, il y avait, juste après, il y a la guerre contre Amalek. Alors, Amalek, c'est la pointe avancée des Saves. On sait donc, Amalek, c'est l'ennemi essentiel d'Israël. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui se nourrit des fautes d'Israël. C'est ce qui fait la guerre, Hachem lui fait la guerre en permanence. C'est ce qui s'oppose à Hachem. Les Israël ont eu affaire, et ça, c'est un ennemi extérieur. Alors, cet extérieur-là, il a attaqué. Mais ici, il y a un très grand problème. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse attaquer le peuple d'Hachem. Attaquer le peuple d'Hachem, c'est attaquer Hachem, ça n'a pas de sens. On ne peut pas attaquer le Créateur. Effectivement, on ne peut pas. On ne peut pas l'attaquer. Par contre, quand le peuple d'Hachem ne se conduit pas comme le peuple d'Hachem doit se conduire, alors il est attaquable. Donc, certaines personnes qui... Qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le désert? Il fallait s'occuper de Torah, quoi, quelque part. Même si on ne sait pas exactement de quelle Torah il y avait à s'occuper à ce moment-là, puisqu'on est avant Matan Torah. Bon, là, on me dirait, il y a Mara, déjà. OK, on peut imaginer qu'il fallait s'occuper des mitzvot de Mara. De façon générale, peut-être s'occuper de chercher la volonté d'Hachem. Amalek, quand il attaque, il n'a rien à gagner. Il sait même très bien qu'il va perdre. Alors pourquoi il attaque? Il attaque pour une question de principe. Il n'est pas pensable que le clan d'Israël est un statut tel qu'il soit inattaquable. On ne peut pas tolérer une chose pareille. Amalek, il dit, c'est moi le Réchid Goïm. C'est moi le commencement de tous les peuples. Je suis avant le clan d'Israël. J'existe avant. C'est lié de Sarah, en fait. Comment il a pu attaquer? Il a attaqué parce qu'il y a des gens dans le clan d'Israël, chez Rafou Yedem et la Torah, des gens qui, dans le clan d'Israël, ne sont pas occupés de Torah comme il fallait. Quel qu'était le sens de s'occuper de Torah, ça? En tout cas, ils ne font pas ce qu'il faut. Et du coup, c'est une brèche, en quelque sorte. Par cette brèche, Amalek peut attaquer le clan d'Israël. Et le problème du clan d'Israël, c'est que quelque part, ils ont toujours ce problème. Est-ce qu'Hachem est vraiment parmi nous, quelque part? Hachem parmi nous, vous avez des doutes, la sortie d'Égypte, le passage de la mer, etc. Ok, ça, les Bnei Israël savaient qu'Hachem maintenant était avec vous, avec eux. Le problème, c'est qu'ils se demandent, Israël se demande, mais quand Moshe Rabbeinu ne sera plus là, peut-être que c'est tout le mérite de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'Hachem s'occupe de nous, il est parmi nous. Mais quand Moshe Rabbeinu ne sera plus là, est-ce qu'Hachem sera toujours avec nous? C'est ça qui se pose cette question sans arrêt. Ça leur doute, en fait. Donc, parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en Hachem. Parce que c'est compliqué, puisqu'Hachem demande qu'on lui fasse confiance tous azimuts. Fais confiance. Mais sans que je sache du tout à quoi je fais confiance. Je fais confiance à Hachem, parce que c'est Hachem, point barre. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il me demande, je lui fais confiance. Si vous voulez, il y a toujours cette réponse qu'il faut donner, que la Torah met dans la bouche des grands serviteurs d'Hachem. Inéni. Me voici. Totalement disponible. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais je suis là. Ce n'est pas je réponds à un appel pour faire ceci ou cela. Tu m'as parlé, je suis là. Totalement disponible. Sans aucune limitation. Ça, la émouna du clan d'Israël. C'est ce qui nous est demandé. C'est-à-dire que je ne comprends rien du tout. Il arrive des choses absolument incroyables. Tout ça, c'est. Je sais que c'est Hachem qui gouverne le monde. Alors, il y a un principe de Sra Veonesh. Il y a des principes peut-être encore plus fondamentaux, qui est la volonté d'Hachem, finalement. indépendamment de la conduite des hommes. Le projet divin se réalise. Je me demande cette confiance. Et Amalek, c'est quelqu'un qui va, si on compare toujours cette histoire de la baignoire brûlante, et lui, il saute dans la baignoire. Il va s'ébouillanter. Mais il aura refroidi la baignoire. Donc, c'est clair, là. Et donc, les Bnei Israël ont cet avertissement, en quelque sorte, cette confrontation avec l'extérieur, dans lequel on voit très bien que rien ne peut attaquer le clan Israël, sauf le clan Israël lui-même, qui peut se fragiliser en n'obéissant pas à Hachem, en ne jouant pas son rôle du peuple d'Hachem. À ce moment-là, il se fragilise. Et à ce moment-là, on est obligé, Hachem est obligé, il va le contraindre à jouer son rôle. Alors du coup, ça peut être extrêmement douloureux. Mais peut-être qu'on va mal comprendre ce que Hachem, on croit qu'Hachem veut, c'est ça qu'il veut, on va faire. Non, mais c'est pas. En plus, on voit dans la fameuse histoire des Meraglim que ce qu'Hachem demande à un certain moment, quand le clan Israël est dans une certaine situation, si la situation change, Hachem demande autre chose. Et vouloir faire ce qu'Hachem avait demandé quand on était dans la situation A, et maintenant qu'on est dans la situation B, on veut faire ce qu'il avait demandé quand on était dans A, non, Hachem dit non, ça ne marche plus. Je vous ai demandé à ce moment-là d'entrer en Eretz Israël. Maintenant, vous n'avez pas voulu. Vous voulez pas? Terminé. Ok, on entre dans un nouveau monde. Vous ouvrez la porte à un nouveau monde. Nouvelle ère. On va prendre un autre chemin. Ah, ils vous diront, non, maintenant on y va. Non, maintenant c'est trop tard. La volonté de Hachem, c'est ça. Vous êtes dans cet état-là, je vous demande de faire ce point-là. Vous ne voulez pas le faire? Ok, vous pouvez choisir un autre chemin. Parce que n'essayez pas de faire dans le nouveau chemin ce que je vous ai demandé pour l'ancien chemin. Ça, c'est le problème d'Amalek. Donc, on a un processus. On a parlé du départ. On a parlé du processus durant lequel il y a Kriyat Yamsouf, il y a Amalek et il y a Mara, anciennement. Et on ne sait pas où on va. Alors, nous, on va vers Matan Torah. Mais en réalité, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, Matan Torah. Puisque ce n'est pas les Mitzvot. C'est qu'Hachem nous parle. Entendre qu'Hachem nous parle. Mais pour ça, il faut être volontaire pour être Metsouvé. Être aussi le récipient de la parole divine. Si on ne veut pas, eh ben on attendra que vous vouliez bien. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour cette Sfirat HaOmer.